This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's now time for French Language and Culture on Paris s'éveille on Plains FM.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Kia ora, welcome to Paris s'éveille. I'm Antonio Vaselli.
And I'm Eric Mouika.
You can catch us every first and third Thursdays of the month at 7 p.m. for a show on French-related topics in Canterbury and beyond, hosted by Plains FM and sponsored by the Alliance Française of Christchurch. This program is also rebroadcast on Taranaki Access Radio and on the Auckland-based French Access Radio program, Amuse-Gueule. A special bonsoir to you all. Please remember you can download the podcast on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it is most convenient for you. Also, please do not hesitate to like and share our program's Facebook page, where you can also get in touch with us with questions, comments, and suggestions for future shows. Eric and I would love to hear from you. What would you like to discuss? Who would you like us to interview? What music are you dying to hear? Please let us know.
Bonjour, chers auditeurs. Alors ce soir, Antonio et moi repensons au semestre que l'on vient de boucler à l'université. Et plus précisément, un niveau court offert dans notre département sur la francophonie. Alors, avant d'entamer cette conversation, nous partageons quelques événements organisés par l'Alliance française de Christchurch. Le 7 novembre, le French Guest, l'atelier d'écriture, Creative Writing Workshop, le 8 novembre, et le Beaujolais Nouveau, le 23 novembre. Alors là, on a appris très récemment qu'il y aura donc un invité, enfin des invités de Nouvelle-Calédonie, des chanteurs. Donc, ça serait une soirée... C'est le vendredi soir, je pense, le 23 novembre, oui. Et donc à mettre de votre agenda. Veuillez consulter le site de l'AFC, de l'Alliance française de Christchurch, pour de plus amples informations.
Très bien, est-ce que tu iras? Tu vas participer au Beaujolais Nouveau?
Écoute, avec un tel nom, c'est très tentant, n'est-ce pas? Quoique, si je peux me permettre, on aura le temps, je pense. Il y a, je pense, aussi un autre événement qui se tiendra en ville, mais je n'ai pas beaucoup d'informations. Une autre petite... alors, ce n'est pas une soirée, c'est une matinée. Mmh. Un petit déjeuner Beaujolais Nouveau. Ouf. Donc, contactez l'Alliance française si vous êtes intéressé. Je pense que ça aura lieu, en fait, le jour même du Beaujolais Nouveau. Et je pense même qu'ils prétendent au titre du Beaujolais Nouveau cuvée 18, les premiers servis dans le monde.
Donc, quand même, à ne pas manquer. Donc d'ici 15 jours, on aura plus de nouvelles.
Voilà.
Très bien. Alors merci Eric. Aujourd'hui, on va parler donc d'un cours, un nouveau cours qui fait partie de notre programme d'études françaises à l'Université de Canterbury, un cours sur la francophonie.
Alors raconte-nous un petit peu plus... Parlons-en un peu plus de ce cours, Antonio.
Alors, les études françaises en général sont assez eurocentristes et eurocentriques. Ce nouveau cours qui s'intitule « From Oui-Oui to Iwi, Comparing Cultures in the Francosphere »
J'aime bien le jeu de mots.
a été créé justement pour permettre aux étudiants de comprendre que la francophonie, ce n'est pas uniquement la France ou l'Europe, où environ 34% des locuteurs francophones habitent. Mais il s'agit d'un monde où il y a 84 États membres qui font partie de cette organisation internationale de la francophonie. Alors c'est un cours interdisciplinaire sur le monde francophone, qui est à la fois historique, littéraire, politique, où nous étudions des extraits de textes de pays divers. C'est un cours qui est bien ancré sur le biculturalisme, on pourra en parler, et qui prend en considération l'enseignement du français en Nouvelle-Zélande, à Christchurch plus particulièrement, ouais. Qui se doit d'être différent du reste du monde, et qui nous met un petit peu en relation avec l'histoire, la culture, les langues de nos pays francophones voisins, notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Voilà, donc on trace quelques parallèles entre diverses histoires coloniales et post-coloniales de ces différents pays.
Et je crois savoir que ça a été quand même assez couronné de succès. Les étudiants ont bien aimé.
Oui, tout à fait. Une des questions à la fin du cours, c'était pourquoi est-ce que ce cours n'a pas existé plus tôt? Pourquoi il n'a pas été créé plus tôt? Et c'est toujours difficile. On n'est pas énormément de profs de français à l'université de Canterbury actuellement, mais nous sommes très heureux d'avoir encore chez nous, au sein du département, Peter Tremieux, un spécialiste French à Karoa, qui est venu d'ailleurs présenter dans ce cours et parler de l'histoire du passé francophone et la possibilité, jadis, que l'île du Sud devienne française.
Alors justement, on a quand même une histoire extraordinaire à Christchurch, grâce à Karoa.
Tout à fait.
Donc, qui rend ce cours encore plus valide, j'imagine, et pertinent.
Oui, exactement. Donc, moi, personnellement, je voulais apprendre un peu plus au sujet d'Akaroa, de la péninsule de Banque, qui m'a ébloui depuis le premier voyage que j'ai fait dans cette partie du monde. Et je voulais que les étudiants lisent un petit peu plus au sujet de cette histoire et qu'ils fassent un peu le lien entre le passé, un passé qui aurait pu être un passé assez fictif, et Akaroa, le Canterbury actuel. Voilà. Et donc, dans ce cours, on a organisé aussi une excursion, une visite pédagogique avec les élèves. On va en parler bientôt.
Alors, tu ne veux pas trop divulguer, parce qu'on a dit qu'on en parlerait dans la deuxième partie.
Tout à fait.
Donc, est-ce que je te coupe maintenant? Est-ce qu'on parle plutôt... Tu parlais de ce côté donc multiculturel aussi avec la sphère francophone. Alors, de quels autres pays tu as parlé dans ce cours alors?
Oui, alors le cours, comme je l'ai dit, est ancré sur le biculturalisme. Le biculturalisme est une politique ici en Nouvelle-Zélande qui tente de célébrer, de rejoindre et de valoriser la culture maori en contiguïté, disons, avec la culture pakeha. Et je voulais justement que les étudiants réfléchissent à divers modèles de biculturalisme, multiculturalisme. Donc, j'ai mis l'accent un peu sur l'histoire et des extraits littéraires et des discours politiques au Canada, où nous prêchons le multiculturalisme. On a parlé de l'Algérie, du Maroc, donc protectorat aussi français, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Akaroa. Voilà. Un peu le fil rouge conducteur à travers le cours, c'était une pensée un peu plutôt philosophique, celle de l'hospitalité. Donc nous avons, lors de la semaine sur le Maroc par exemple, étudié des ouvrages de Tahar Ben Jelloun, qui a écrit l'hospitalité française. Voilà. Donc l'hospitalité, on a un joli jeu de mots, pour revenir au jeu de mots d'avant, de « oui-oui » qui est français et « iwi » qui signifie à la fois « tribu » et « nation », donc un jeu postcolonial. Mais dans le mot « hospitalité », nous avons aussi un double entendre avec « hôte » qui signifie à la fois celui ou celle qui est invité et celui ou celle qui invite. Il y a cette ambiguïté qui existe en français. Alors Ben Jelloun, sur les traces philosophiques déconstructionnistes de Jacques Derrida, souligne un petit peu ce malaise dans l'hospitalité.
Voilà. Donc, typiquement française ou en général
Typiquement française, à la base, oui.
Tu parlais de thème, le fil conducteur, c'est donc l'hospitalité, le thème commun à ton traitement des autres pays, ou est-ce que tu t'es focalisé sur l'hospitalité par Tahar Ben Jelloun?
Alors, on a pris l'idée de Ben Jelloun et de Derrida, mais c'était plutôt comme approche afin de parler et de discuter d'autres histoires, d'autres cultures. Par exemple, au Canada. Il ne s'agit pas uniquement de parler de Jacques Cartier et de son arrivée, mais de regarder le Canada actuel, francophone, multilingue, multiculturel, de prendre en considération la commission de vérité de réconciliation entre les autochtones et le reste de la population canadienne.
Les aborigènes, vous les appelez d'abord.
On a les termes, voilà, on a parlé aussi des nomenclatures. Qu'est-ce qui est politiquement correct? Indigène, aborigène, autochtone, allochtone. Il y a des termes quand même assez loaded, comme on dit en anglais. On a parlé des écoles résidentielles aussi, des atrocités qui ont eu lieu jusqu'en 1996, je disais tout à l'heure. Voilà, donc cela choque les étudiants. L'hospitalité, un couteau à double tranchant. Il y a une hospitalité idéale, selon Derrida, mais ça reste une impossibilité. Bon, on va prendre une petite pause, je pense, maintenant.
Alors, qu'est-ce que tu as nous proposé?
Alors, je vous laisse sur un poème de Natacha Canapé-Fontaine, qui est poète militante québécoise et inoue, et qui va vous réciter « Nous nous soulèverons ».
Très bien.
Mes entrailles brûlent d'un feu avec lequel j'ai été forgé sur l'autel des castors de mon grand-père. Mon voyage est fait de ces visions d'autrefois, du souvenir brûlant de nos récits de tradition, de nos marches dans les bois, arrachés à nos mères et à nos terres, qui, elles, lentement se fondent dans le flou artistique des écrans de télévision, de ces caméras sans équivoque, qui se parlent de nous sans réciproque intention. Nous nous soulèverons. Notre nom sera les vibrants de couleur rouge, peau, car nous vibrerons. Au rythme des tambours et des feuillages, de nos arbres qui dansent sous les vents de l'aube, juchés entre nuages et terre, à emplir l'élan de la blessure vive d'un chant nouveau courant l'éther, le cri des indomptés. Nous nous soulèverons, maman, que ce nom nous nous soulèverons, et nous apporterons la lumière au monde. Comptons les années perdues sur les chapelets de nos grands-mères. Partons sur les routes d'asphalte du pays pour le nouveau portage, seau d'eau à la main, canot sur le dos. Levons le poing pour que lorsque nous rentrerons chez soi, à la fin des batailles juridiques et territoriales, nous murmurerons à l'oreille de nos grands-parents que nous aurons remporté la lutte longue de notre détermination et de la justice environnementale. Laissons à la terre ce qui appartient à la terre. Le message est immense et il traversera les terres, et la vie, et la vibration, et la vision de nos grands-pères. Construisons les relations qui bâtiront entre les peuples et les nations le sensible fil de l'intime conviction que nous devons ensemble bercer notre territoire aimé, retracé, retissé, désormais en nos bras salis par le fuel et le liquide fourbe du bitume des sables mouvants noirs de l'Alberta brisée. Rétablissons les racines reliant nos ancêtres à nos enfants, et nous avancerons fort de l'enseignement de l'univers, du territoire et de la lumière. Nous nous soulèverons. Notre nom sera les vibrants de couleur rouge peau, car nous vibrerons au rythme des tambours et des feuillages de nos arbres qui dansent sous les vents de l'aube, juchés entre nuages et terre, à emplir l'élan de la blessure vive d'un chant nouveau courant les terres, le cri des indomptés. Nous nous soulèverons, maman, que ce nous, nous nous soulèverons et nous apporterons la lumière au monde. Chachish no mundenan et tbushkat, et al mundiat mlegash muknin abu pastel mia. Chach no abden pedaben onde obdenat, din de sinan et tgut karkat, hach no abmor piham, tu de maintenant. Waben no ta yat. Nemelden et Luyan, Waben no dayat, Kahagat no nin, Tjikod nat mudeyan, Noach poguhel de mon. Fabriqué de la crainte et de la puissance, mêlé entre les troncs de la pinède, je suis né à mon tour, habité d'un cri, d'un seul cri. Atok, Schwab mo, Megan. Atok.
Superbe poème. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Alors, justement, la transition avec Akaroa, je me disais et je te disais que je suis mécontent que le capitaine Laveau était donc un fin diplomate pour un militaire, excusez-moi de l'humour, et qu'il n'a pas essayé de se soulever quand ils sont arrivés donc, en août 1840 et qu'ils ont vu le drapeau de l'Union Jack flotter sur la mairie ou sur la première maison. Alors justement, un petit rappel de Akaroa pour ceux qui ne se connaissent pas trop. Jean-François Langlois, 29 ans, né en 1808 à la Luzerne en Normandie et commandant à bord d'un baleinier, le Cachalot, lorsqu'il met l'ancre pour la première fois à Akaroa dans la péninsule de Banks en 1838. Il y passe l'hiver, pêchant des baleines au large de la côte. À cette époque, il n'y a pas encore de colonies françaises dans le Pacifique. 60 baleiniers français environ font régulièrement la traversée entre la France et la Nouvelle-Zélande pour se livrer à cette pêche lucrative. Alors bien sûr, l'île du Nord est déjà bien peuplée de colons britanniques, surtout dans le Nord, Bay of Islands notamment, et Auckland. Et une annexion britannique de Nouvelle-Zélande semble être imminente. Donc il faut agir vite, bien sûr, mais ouais. Les Français n'ont pas été assez rapides, n'est-ce pas? Alors justement, bien qu'il l'ait acheté, soi-disant, on parle de demande de fraude. Je vous rappelle d'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Peter Tramwine qui est absolument magnifique, une mine d'or de renseignements. D'ailleurs, Peter a fait un travail d'archives extraordinaire. C'est magnifique à lire et donc je vous engage à le lire.
French Acara.
French Acara. Mm-hmm. Donc voilà pour Acara. Alors justement, pourquoi cette petite visite à Acara, alors Antonio?
Alors justement, les étudiants ont lu des extraits de French Acara de Peter Tramwine. On a eu la visite de Peter aussi. C'était pour prendre conscience d'un passé francophone. C'était pour que les étudiants voient Acara à travers une lentille un peu diverse. Ce n'est pas seulement un endroit où on va passer des vacances, manger des fish and chips, délicieux. Mais de voir un peu cette combinaison du kitsch, du cliché et de l'historique. Donc, est-ce qu'ils voient Acara différemment après avoir fait ses lectures et de considérer si Acara était resté entièrement français, qu'est-ce que cela signifierait pour le biculturalisme néo-zélandais, pour la diplomatie entre l'île du Sud et l'île du Nord. Voilà, on a eu de très belles conversations.
J'imagine.
Et voilà, on a eu une belle journée, une chasse au trésor, un pique-nique, une visite de musée. Donc on remercie Rosaria Campbell qui avait organisé le week-end à Wainui, dont on a déjà parlé ici à la radio.
Tout à fait.
Voilà. Et c'était la possibilité aussi de leur montrer la statue de Charles Mérion, un peintre qu'on a étudié au moins en partie en cours.
Alors justement, Charles Mérion, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu cette statue, qui est magnifique d'ailleurs, je pense que c'est le pain béni pour beaucoup de touristes, j'imagine le nombre de personnes qui se sont fait photographier dans ce cadre vide, c'est magnifique et ça montre un petit peu, ça illustre très bien je pense aussi le côté un petit peu, je vais pas dire excentrique, mais différent de ce personnage. Alors parle-nous un petit peu de ce Charles Mérion.
Absolument, le terme excentrique est tout à fait approprié. De ex-centre, en dehors du centre. Il s'intéresse littéralement au centre-ville de Paris, après ses voyages au Pacifique. Mais il était lieutenant à bord du Rhin. Oui. Donc il a passé 3 ans à Acara, entre 1843 et 1846. C'était un artiste qui souffrait de troubles mentaux. Il était aussi daltonien. Donc malheureusement, sa carrière de peintre n'allait pas aboutir à grand-chose. Donc il s'est intéressé plutôt à la gravure.
Oui, c'est plus simple, c'est voilà, plus sûr.
Plus simple, bon. Il y a aussi quelque chose d'un peu presque macabre, quelque chose qui nous hante dans les gris et les noirs et les blancs de cet artiste excentrique qui va terminer ses jours en France dans un hôpital psychiatrique, malheureusement. Il s'est intéressé beaucoup à plusieurs figures à Paris, par exemple le Strige. Donc on a quelques images sur notre page Facebook de Paris s'éveille. On vous invite à les consulter pendant que vous nous écoutez. Le Strige, donc, c'est devenu un peu cette carte postale fameuse, reconnue un peu partout quand on voit ces gargouilles qui surplombent la ville.
De Notre-Dame.
De Notre-Dame, par exemple, oui. Mérion voulait vraiment comprendre une Paris qui était en pleine transformation. Donc, on a cette juxtaposition d'une Paris encore plutôt médiévale.
Ouais, jusqu'à Haussmann.
Exactement. Et les modifications de la ville avec les boulevards Haussmann, l'haussmannisation de Paris. Voilà. Il s'intéressait un petit peu à des figures comme des prostituées. On a cité des trentaines de milliers de prostituées à Paris à l'époque. Les péchés capitaux reviennent très souvent dans ses croquis et dans ses gravures. On va en parler dans quelques secondes, si on a le temps. Mais c'est une figure qui a particulièrement impressionné deux deux personnes, donc un philosophe et un poète, notamment Walter Benjamin. Donc Walter Benjamin est philosophe de l'école Francfort avec Adorno et Horkheimer, qui est mort en traversant en fait en France de Port-Vendres dans le sud-ouest, et il est mort à Cerbère, si je ne m'abuse, essayant de fuir donc les nazis. Il était juif, pour retrouver ses collègues à New York. Walter Benjamin a écrit, il avait un projet, c'était le projet des arcades. Le projet des arcades, donc les arcades à Paris, qui sont cet espace un peu liminal. On a ses vitres, on peut voir dehors, mais on est aussi à l'intérieur. Il y a ce jeu d'ambiguïté de nouveau, cette dualité. C'est un espace liquide, disait Benjamin, où le temps s'arrête. C'est l'espace propice à la flânerie, par exemple. Oui, c'est où la figure de la prostituée était très importante aussi, parce qu'elle jouait sur une ambiguïté. Elle est à la fois vendeuse et vendue, voilà, dans ce capitalisme des arcades. Walter Benjamin trouvait donc Merion une des figures les plus fantasmagoriques du monde. Et on retrouve cette fantasmagorie dans ses croquis, dans ses gravures, notamment...
celle avec la pirogue flottante.
Exactement. Donc, on a une ville de Paris en pleine transformation et des pirogues, une mythologie polynésienne qui surplombe la ville. C'est quand même assez remarquable.
Et Charles Baudelaire ?
Et Charles Baudelaire. Alors, Baudelaire et Merion font partie de l'histoire, ce détritus du 19e siècle, pour citer Walter Benjamin. Ce sont les écrivains, les poètes, les artistes de la modernité. Et la modernité, Baudelaire la définissait comme... à la fois le fugitif, le transitoire, la moitié de l'art dont l'autre moitié c'est l'éternel et l'immuable. Donc le fugitif, dont l'étymologie c'est fuga, la fuite, c'est tout à fait pertinent à l'écriture de Baudelaire et aux gravures de Merion. Cette idée de fuite, d'aller vers l'au-delà et de nouveau l'excentrique, aller au-delà du centre. Voilà, donc rendez-vous sur notre page Facebook pour regarder quelques gravures de Merion.
Et j'espère que les gens feront aussi, comme moi j'ai fait, un effort de chercher un petit peu, parce que c'est quand même extraordinaire que ce soit justement quelqu'un qui soit de cette époque, bien sûr, mais aussi qui soit dans un mouvement qui soit quand même à part,
et
pas un truc traditionnel, voilà. Comme on espère.
Un peu entre le symbolisme, le romantisme,
voilà.
Et cette anthologie, donc hanté et ontologie, du Pacifique, d'Akaroua, qui se représente, se remanifeste à Paris aussi, donc aux antipodes.
Tout à fait. Bon, nous vous quittons sur le poème « Le serpent qui danse » de Baudelaire, justement, et interprété par Serge Gainsbourg, où s'unissent quelques thèmes abordés ce soir, du navire qui s'éveille au vent du matin au vin de Bohème. Alors, petit clin d'œil au Beaujolais nouveau, à ne pas rater le 23 novembre à l'Alliance française. Bonne soirée à vous tous.
Au revoir.
Au revoir.
J'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur,
un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.